Novae de Nicola Antoniucci. Un grain de sable dans une plage d'étoiles. Les hommes sont devant Novae, depuis ce qui semble être une courte éternité. La radio des astronautes émet maintenant en continu vers la planète Terre. Partout, soudain, sur notre sol, et simultanément, les aliens fleurissent. Ils ont surgi comme une pluie de souvenirs oubliés, dont les vécus ressurgiraient de la mémoire des hommes. Aussi, et au même moment, le sol de Novae s'est totalement recouvert de taches jaunes. Celles-ci semblent être formées par un phénomène électrique.
Allô la Terre ! Allô ! Ici les astronautes ! Maintenant, Novae scintille ! Je répète, Novae scintille !
Pendant ce temps-là, sur Terre, soudain jaillissent dans nos villes, dans nos forêts, dans tous les coins de la planète, des objets anodins que le cerveau de l'homme a créés. Ils se matérialisent seuls, surgissant de la mémoire des hommes. Sortent au milieu des champs verts, des forêts de parapluies ouverts qui se balancent tendrement au gré du vent. Ils sont tous de toutes les couleurs artificielles. Ils sont parfois cassés et jetés dans des corbeilles d'acier où ils meurent lentement, comme des fleurs aux tiges brisées. Parmi eux, des Kleenex multicolores côtoient des stylos perdus aux plumes d'or. Jaillissent au milieu des rues des villes d'énormes poils rouillés, aussi des chaises fantomatiques. Parfois, des lampions chinois éteints et recouverts de tissus rouges et dorés. Jaillissent en haut des montagnes, dans les sommets où l'air est rare, des débauches de camions étincelants. Ils entourent un cargo d'acier qui sait on ne sait comment enlisé à cet endroit. Ils gisent maintenant là, oubliés dans la couverture blanche de la neige éternelle de là-haut. Sur celle-ci, des formules mathématiques mélangées à des phrases uniques de poètes sont maintenant gravées pour l'éternité.
Allô ! Allô, Novae, ici la Terre ! Que se passe-t-il là-haut ? Allô !
Les astronautes interloqués répondent.
Ici la planète bleue, le sol se couvre maintenant de fleurs multicolores. Elles éclatent les unes après les autres comme éclaterait un furieux feu d'artifice.
Alors, du fond des océans de la Terre sortent de somptueuses tiges. Celles-ci, après avoir franchi des milliers de kilomètres d'eau pure et salée, portent à leur surface d'immenses bourgeons qui flottent quelque temps à la surface de l'eau, comme de gros ballons boursouflés. Lorsqu'ils éclatent, ils laissent apparaître de sublimes fleurs. Elles sont transparentes, peut-être virtuelles et constituées de pétales d'énergie qui portent avec discrétion toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elles sortent par milliers de la surface de tous les océans et tranquillement, ensuite, elles se balancent sous le vent, qui les fait crier dans une musique sidérale, comme les chants d'une baleine ou la plainte mélancolique d'une scie musicale. Parfois légèrement, comme le bruissement des cimes des arbres, qui seraient battus par une forte tempête. Des vols entiers d'oiseaux de mer s'y sont abîmés. Ils ont disparu dans les pétales ouverts de ces plantes titanesques. En quelques jours, une odeur de sucre et de sucre a envahi notre planète. Les navires métiques ont ressurgi du rêve, de l'histoire des hommes, aujourd'hui éberlués. Ils sont maintenant portés par ces fleurs gigantesques. On peut voir le fantôme du Titanic accompagné de ses morts glacés et aussi le vaisseau fragile de bois de Vasco de Gama. Celui de Christophe Colomb suit avec toutes ses voiles déployées vers l'inconnu et ses Indiens nus. Naviguent à leur côté tous les grands pétroliers fracturés, sont accompagnés de leur cortège sémillant de requins noirs. Leurs carcasses d'acier rouillé sont enduites d'une pellicule de pétrole luisant, mélangée aux plumes gluantes et mortes des oiseaux de mer assassinés. Tous ces navires fantomatiques sont accompagnés par des porte-avions gigantesques où s'envolent des mouches d'acier. Ces bateaux guerriers arborent une nuée de fiers drapeaux bariolés. Ils flottent orgueilleusement sous la pression salée des vents marins qui par saccades les assaillent. Aussi surgissent des épaves de goélettes espagnoles qui, en émergeant pesamment du fond de l'eau, laissent couler des cascades de pièces d'or, comme des rêves jaunis. Peut-être pervertis, troublés par la lourdeur psychologique de ce métal nommé précieux. Tous les miroirs de la Terre soudain se sont éteints. De même, les reflets tranquilles de l'eau calme, comme ceux des lacs noirs qui hantent les nuits sans lune et que traversent constamment avec obsession comme un devoir d'éternité des canards noirs aussi. Les hommes ont eu alors la révélation qu'une partie de leur monde ordinaire, familier, était en fait envahi par des carcasses virtuelles composées de signes, de formes, de couleurs et même de matières imaginaires. Elle portait depuis longtemps les regards des aliens de Novae chez nous, et ça depuis très longtemps. Certains oiseaux n'existaient pas, ou plutôt n'existaient que dans notre regard. Certains insectes imaginés observaient par colonies entières les forêts d'Amazonie, les trottoirs de nos villes aussi.
Allô, Novae ? Allô ? Que se passe-t-il là-haut ?
Du sol de la planète sort une forme gigantesque. Une colonne d'étoiles blanches s'échappe du sol bleu comme une tornade filandreuse. De cette forme jaillissante, nous apercevons maintenant les contours d'un objet qui surgit de cette vapeur de poussière stellaire. Avons-nous enfin établi le contact avec les aliens ? La forme qui sort du nuage scintillant maintenant se précise. C'est un cylindre pur, comme une gigantesque canette d'aluminium qui sur Terre contiendrait du Coca-Cola. Voilà l'objet maintenant formé, la colonne d'énergie qui, comme un long cordon ombilical, semblait le retenir, s'est brisée. Il s'envole vers nous venant de la planète bleue. La canette, comme un gros ballon, se détache d'elle. Elle flotte quelque temps dans le ciel sidéral avant de s'arrêter à nos côtés, à seulement quelques centaines de mètres en dessous de notre vaisseau grotesque. Nous voyons à côté de lui un objet qui prend forme. Il se matérialise doucement, en s'épaississant, en se colorant, en s'opacissant. C'est un immense stylo à la plume dorée qui maintenant flotte à ses côtés. Il est bientôt rejoint par un camion étincelant qui vole incongru dans le ciel. Après un avion grotesque comme ceux des manèges d'enfants.
Allô la Terre ! Les Novaïens nous parlent ! Allô la Terre ! Du centre du corps de métal de cylindre pur s'ouvre une porte comme une fente noire. Nous voyons en sortir trois formes molles et roses qui se détachent de ce noir. Elles glissent l'une après l'autre dans l'espace intersidéral relié par un long filin rouge sang. Ce sont des aliens que nous voyons là. Ils sont habillés de scaphandres roses et mous, avec sur chaque casque deux antennes qui clignotent dans la nuit. Allô la Terre ! Nous voyons maintenant sortir de la fente noire qui trouve le ventre du vaisseau des objets sans couleur. Avec peut-être simplement celle de l'argent, du métal argent, de l'énergie argent. Ce sont des formes pures et géométriques. Celle de l'anneau, celle du cercle, celle du triangle et du cube aussi. Elle nage vers nous. Elle flotte dans l'espace mélangé en cet instant aux souvenirs de nos objets qui se sont matérialisés. Le cube côtoie un instant un grille-pain géant. L'anneau, le stylo qui le traverse lentement. Un cône tourné sur lui-même en décrivant une trajectoire sinuosidale et de son cercle s'échappe une lumière fantomatique. Du cœur de l'anneau, du centre du cube et de l'intérieur de toutes les formes géométriques s'échappe aussi une lumière blanche et phosphorescente. Dans cette lumière qui irradie le cœur des objets, on peut voir comme des hologrammes se jouer des scènes de la vie sur Terre. Certaines comme vues par les yeux d'un goéland qui planerait haut dans le ciel, d'autres étaient vues par le regard d'un rat, d'autres encore semblaient réfléchies par l'acier d'une canette de bière. Allô la Terre ! Trois des formes pures se dirigent maintenant vers nous. Elles planent vers notre astronef entraînant derrière elles les lueurs de lumière blanche dans lesquelles nous apercevons se battre de minuscules silhouettes grises, aussi petites que d'insipides fourmis. Les aliens repartent dans leur vaisseau rose et bientôt disparaissent dans l'air bleuté de Novae.
Les mirages de camions et objets soudains disparaissent, en laissant devant eux le vide, la seule nuit noire et étoilée. Les formes pures s'approchent de nous. Nous déverrouillons la porte de notre vaisseau. Voilà, c'est fait, lentement elle s'ouvre. Nous offrons à la mort possible ou à son alternative la vie, par la connaissance de l'autre, de l'inconnu, pourtant tant attendu. Les formes extraterrestres s'engouffrent l'une après l'autre dans les ventres terriens. Elle se dirige seule dans les longs couloirs gravés, traverse la carcasse vide et se dirige vers la chambre inutile où s'est déposé le livre du temps. Nous ouvrons cette porte close et entrons avec elle dans cet espace recouvert de marbre noir et blanc. Les formes entourent le livre et s'immobilisent. Lentement, la dernière page, le dernier dessin se complète. L'anneau, le cube et le cône y sont maintenant gravés. Ils irradient toujours une lumière phosphorescente. Et en nous penchant vers celle-ci, où jouent de fantomatiques silhouettes, nous pouvons maintenant admirer des paysages du sol de Novae. Des paysages de villes boursouflées par de gigantesques ruches d'acier dans lesquelles se traînent des aliens rosés, parfois phosphorescents, au front orné par un œil bleuté. Aussi des paysages de campagne où ils cultivent, dans de grands marécages et sous des chapeaux de forme conique, des algues filiformes.
Allô la Terre ! Voici le message que nous avons compris.
Les Noviens observent notre planète depuis longtemps. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec l'apparition dans leur ciel du vaisseau grotesque, qu'ils ont estimé que l'évolution de l'humanité était à présent suffisante, ils pouvaient se faire connaître. L'homme, grâce à son vaisseau grotesque et ses signes fous, a enfin atteint une puissance suffisante pour dialoguer avec d'autres formes de vie qui hantent les ténèbres de l'univers. Parfois, le grotesque atteint le sublime. Jave referme sa télévision. Il est ému par cette première rencontre de l'humanité, où enfin l'esprit de l'homme a transpercé l'impénétrable. Il avait le sentiment que l'homme habitait depuis longtemps une rue de l'univers, et que pour la première fois, il rentrait pour un court instant chez son voisin. La décoration de cette maison lui semblait effarante.